Un homme avait deux fils. Dès le début de l'histoire, Jésus situe les enjeux à leur véritable hauteur. Il est question d'un père, puisqu'il a deux fils, et de deux frères. Mais comment creux ? Remarquez, Jésus parle d'un homme et pas d'un père, de deux fils et pas de deux frères. C'est sans doute là que se situe une des clés de compréhension de la parabole. Jésus, mine de rien, fait comprendre aux scribes et aux pharisiens quel est leur problème. Ils ne reconnaissent pas Dieu le Père tel qu'il est, parce qu'ils refusent d'être frères avec les publicains et les pécheurs. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. En développant, scribes et pharisiens pourraient dire « Comment cet homme peut-il nous faire croire qu'il est le Fils de Dieu, que c'est bien le Père qu'il a envoyé parmi nous, quand on voit ses fréquentations ?» Et il voudrait que nous admettions des impies parmi les nôtres, nous faire croire qu'ils nous sont semblables. Pour les scribes et les pharisiens, la pilule est dure à avaler et ils récriminent. Jésus n'est pas naïf. Il sait très bien que la fraternité n'est pas la relation humaine la plus facile à vivre. Il n'y a qu'à ouvrir le livre des Écritures pour s'en rendre compte. Il y a peu de temps, j'ai lu cette anecdote assez amusante. Un groupe de jeunes professionnels sollicite un dominicain spécialiste de la Bible pour parler de la fraternité. Et le dominicain de leur dire « Ah oui, je pourrais peut-être vous dire quelque chose sur Caïn et sur Abel. » Ou bien sur Ésaü et Jacob, ou peut-être même encore sur Joseph et ses frères. Étrangement, les jeunes n'ont pas donné suite. Ils n'avaient pas perçu que dans la Bible, les histoires de frères se passent mal en général. Et dans notre société française, beaucoup s'accordent à dire que des trois principes de la devise républicaine, le troisième est sans doute le plus difficile à appliquer, notamment parce qu'il relève de l'obligation morale et non du droit. Il y a tellement de raisons pour nous empêcher d'être frères. Jésus en souligne deux. Nous ne voyons plus le Père comme tel, nous refusons le frère qui nous est donné. Nous ne voyons plus le Père comme tel. En relisant la parabole de l'homme et de ses deux fils, nous remarquons que ces derniers ont deux attitudes différentes vis-à-vis de leur père et que cela est marqué dans le texte par la manière dont ils s'adressent à lui. Le cadet utilise à trois reprises l'apostrophe « père » et pourtant, il n'hésite pas à demander sa part d'héritage comme si son père était déjà mort. Quant à l'aîné, il n'utilise même pas le terme de « père ». Il semble que le cadet refuse le père tel qu'il est. Il en préférerait un autre, peut-être moins exigeant, plus souple, moins ordinaire, plus admirable, etc. La première lecture peut nous le faire saisir. Le Seigneur déplore devant Moïse que le peuple s'écarte du chemin qu'il leur a ordonné de suivre, c'est-à-dire de la parole de vie dont le décalogue est le résumé. Le peuple préfère une caricature de Dieu, même pas un taureau, mais un veau. Sans doute, ce Dieu-là paraît-il plus conciliant pour Israël. Nous courons toujours le danger de nous fabriquer des idoles à la place de Dieu, de nous imaginer un Père tellement plus beau que celui qu'il nous faut bien accepter. Le problème du cadet, c'est donc le refus de la réalité telle qu'elle est. Mais gare à la chute quand les illusions se dissipent. On peut tuer le Père, ne serait-ce que symboliquement, le faire disparaître de notre histoire, parce qu'il bride notre liberté et ne nous semble même pas nécessaire à notre développement propre. Il faudra un jour payer le prix d'un tel déni de la réalité. La dilapidation de son bien, la famine et le fait de ne compter pour personne auront raison des prétentions autonomistes du cadet. Mais il lui faudra plus pour comprendre qui est son père. Pour comprendre que l'image d'un patriarche sévère et dominateur ne tient pas devant la réalité d'un homme qui court se jeter dans les bras de son fils quitte à perdre sa dignité paternelle. Nous ne voyons plus le Père comme tel, nous refusons le frère qui nous est donné. L'aîné des fils, lui, a un problème avec son frère. Écoutez comment il parle de celui-ci à l'homme qu'il n'appelle d'ailleurs pas père, nous l'avons déjà signalé. Quand ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Ton fils, et non pas mon frère. On croirait entendre une dispute conjugale quand le père reproche à sa femme d'avoir excusé une énième frasque de leur rejeton. « Oh, ton fils !» Mais ici, l'expression ne prête pas à sourire. À dire vrai, elle me glace le sang. Entendez le poids d'envie, de rancune, de frustration qui se libère d'un coup à travers ce « ton fils ». L'aîné ne supporte pas son cadet, ce qu'il a fait, même peut-être ce qu'il est. Et subtilement, le refus d'un frère qu'il n'a pas choisi, qui s'impose à lui, devient par le même coup un refus du père. « Ton fils » veut dire aussi « je n'en suis pas ». « Je refuse ton autorité puisqu'elle conduit à se montrer si généreux avec celui qui a commis le mal. » Le psaume 50 nous aide à percevoir quel est le souci profond de ce fils aîné. Il a vécu les contraintes de sa vie quotidienne comme autant de sacrifices à offrir sur l'autel de la relation filiale. Il a cru que l'amour de son père s'achetait à coups d'efforts et de mérites accumulés en suivant strictement et uniquement la loi. Or, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce qui touche le cœur du Père, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs, certes, mais aussi que nous avons besoin du pécheur à côté de nous qui est notre frère, même s'il nous semble vivre en dehors des clous. Cela, d'ailleurs, ne nous regarde pas, c'est l'affaire du Père. Lui veut seulement que nous admettions ce qui est. Nous sommes frères les uns des autres. Écoutez comment l'homme de la parabole rétablit ce qui est vraiment. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir car ton frère, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. » Pour conclure, revenons au début de l'histoire. Un homme avait deux fils. Vous savez bien, souvent, dans les livres de catéchèse ou même dans certaines éditions de la Bible, on parle de cette parabole comme de celle du fils prodigue ou de celle des deux fils. On oublie le début de l'histoire. Un homme avait deux fils. Le personnage le plus important de cette histoire, c'est bien le père. Et les petites paraboles qui précèdent la grande nous le disent bien. Le premier à compter, c'est bien le berger. La deuxième dont il est question, c'est bien la femme qui cherche sa pièce. Donc, le plus important dans la troisième histoire, c'est bien le père. Et très profondément, ce qui se lit en filigrane de cette parabole, c'est bien souvent notre refus de considérer le Père tel qu'il est, c'est-à-dire miséricordieux. Oui, notre Père est plein de miséricorde. Et nous refusons cette miséricorde. Parfois, nous la refusons pour nous. Et avouons-le, nous sommes plus enclins à la refuser pour notre frère pécheur. Or, Saint Paul le rappelle à deux reprises. Il m'a été fait miséricorde. L'expression revient donc deux fois sous sa plume. Il m'a été fait miséricorde. Pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en Dieu. Oui, il nous a été fait miséricorde. Nous ne pouvons pas vivre sans nous reconnaître pécheurs pardonnés. Et nous ne pouvons pas vivre sans le pardon qui nous est accordé à nous, mais aussi à notre frère. Alors, demandons cette grâce de considérer le Père tel qu'il est, non pas comme celui qui doit d'abord faire respecter la loi, même si elle est importante, mais avant tout comme un Père plein de miséricorde, qui connaît nos faiblesses et qui est capable d'aller au-delà de ces mêmes faiblesses. Car ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est bien la vie en abondance. Lui demandons cette grâce de ne jamais renier notre relation fraternelle, de ne jamais renier notre relation filiale, mais ces relations si importantes faites d'amour et de miséricorde.